Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Quand le racisme anti-blanc débouche sur l'appel au meurtre, la justice ouvre une enquête contre le rappeur Nick Conrad pour un clip au titre explicite « Pendez les blancs ». La condamnation est unanime ce soir. Les explications d'Antoine Marette dans un instant. Hassan Rouhani répond à Donald Trump aux Nations Unies. Pour le président iranien, c'est son homologue américain qui est isolé sur la scène internationale. Nous retrouverons Grégory Phillips à New York. New York qui accueille ce soir la deuxième édition du One Planet Summit. Un an après le sommet organisé par Emmanuel Macron pour renforcer la lutte contre le réchauffement climatique, le ministre de la Transition écologique François de Rugy est l'invité de ce journal. Jeremy Corbyn est prêt à gouverner le Royaume-Uni. Le leader du parti travailliste s'est montré particulièrement offensif aujourd'hui lors du congrès de sa formation à Liverpool. Nous verrons cela avec Antoine Gignot. C'est un clip insupportable mis en ligne il y a une dizaine de jours. Un clip qui met en scène la mise à mort d'un blanc. Son auteur, Nick Conrad, un rappeur d'origine camerounaise de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. C'est d'ailleurs là qu'il a tourné sa vidéo réalisée de manière très professionnelle. Le scandale a véritablement éclaté aujourd'hui et le parquet de Paris a ouvert une enquête pour provocation publique à la commission d'un crime ou d'un délit. Antoine Marette.
Ce clip de 9 minutes 26 met en scène la nuit en pleine rue des hommes noirs, dont le rappeur Nick Conrad, qui torturent un homme blanc. Les images sont crues et suivies de cette phrase de Malcolm X, « Le prix pour faire que les autres respectent vos droits humains est la mort ». Titre de la chanson PLB comme « Pendez les blancs », Nick Conrad appelle notamment, je cite, « à tuer des bébés blancs, attrapez-les vite et pendez leurs parents, écartelez-les pour passer le temps, divertir les enfants noirs de tout âge, petits et grands ». La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme a décidé de porter plainte. Antoine Spire est le vice-président de la LICRA.
L'appel au meurtre raciste dans ce clip de Nick Conrad est abject et d'une violence absolument inouïe. La liberté de création, ce n'est pas la liberté d'appeler à pendre des blancs à raison de la couleur de leur peau. C'est la raison pour laquelle nous saisissons la justice. Il ne s'agit pas d'une œuvre de création, il s'agit d'un message politique, celui de la haine des blancs parce qu'ils sont blancs. C'est un appel au meurtre raciste dont les termes auraient pu être ceux de Céline dans Bagatelle pour un massacre à propos des Juifs. Ce clip est le reflet de l'idéologie des indigènes de la République, celle d'Ouria Boutedja, qui consiste à essentialiser les blancs, à considérer qu'ils sont immuablement des esclavagistes, tandis que les Noirs seraient perpétuellement des victimes. À la LICRA, nous défendons les Noirs quand ils sont attaqués, et nous défendons les Blancs quand ils sont attaqués, mais là, cet appel au meurtre dépasse toutes les limites.
Le clip mis en ligne, le 17 septembre dernier, reçut le soutien immédiat de Dieudonné Mbala Mbala. Le polémiste, condamné plusieurs fois pour antisémitisme, a salué, je cite, « une jeunesse bouillonnante » et pleine de talent.
Antoine Marette, merci. La classe politique condamne unanimement cet appel au meurtre des Blancs. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, dénonce des propos abjects et des attaques ignominieuses. Interrogé par RTL, Nick Conrad se défend d'avoir voulu faire le buzz. C'est un message d'amour en profondeur, plus qu'un message de haine, prétend le rappeur, qui affirme avoir voulu, je cite, inverser le système. La plateforme YouTube dit avoir retiré le clip qui reste malgré tout largement accessible ce soir sur Internet. Donald Trump persiste et signe lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU. Le président américain a une nouvelle fois appelé le monde à isoler l'Iran. Le propos était toutefois moins virulent qu'hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour lui répondre, le président iranien Hassan Rouhani a organisé une conférence de presse aujourd'hui à New York avec un message clair. C'est Trump qui s'isole en multipliant les attaques verbales contre Téhéran. Grégory Phillips.
Hassan Rouhani est souriant car il explique que ces deux derniers jours aux Nations Unies et encore ce matin au Conseil de sécurité, il a vu les États-Unis plus isolés que jamais sur la question du nucléaire iranien. La décision de l'administration Trump de se retirer de cet accord signé en 2015 est non seulement illégale, explique le président de la République islamique, mais elle renforce la détermination du gouvernement et du peuple d'Iran. Il ajoute « L'Amérique nous harcèle, continue de faire pression sur nous. De nouvelles sanctions sont d'ailleurs annoncées pour début novembre, mais toutes les autres nations dit Rouhani, veulent préserver cet accord conclu à l'époque entre six pays, l'Union européenne et l'Iran. Hassan Rouhani se dit d'ailleurs persuadé qu'un jour, les États-Unis reviendront dans cet accord. Quand enfin on demande aux dirigeants iraniens ce qu'il a pensé du vocabulaire de Trump hier à la tribune de l'ONU, qui avait qualifié l'Iran de principal soutien du terrorisme, Rouhani sourit encore. Ces gens-là, comprenez Trump et son administration, sont novices en politique et n'en connaissent pas les règles.
Grégory Phillips à New York, Donald Trump qui s'est trouvé aujourd'hui une deuxième cible, la Chine. Le président américain accuse Pékin de vouloir l'empêcher de remporter les mi-termes, les élections de mi-mandat prévues en novembre aux États-Unis. La Chine a toujours respecté le principe de non-ingérence dans les affaires internes d'un pays, a immédiatement répondu le chef de la diplomatie chinoise. On reste à New York pour évoquer la deuxième édition du One Planet Summit, un an après le premier sommet du genre organisé à Paris par Emmanuel Macron. Le président français voulait alors s'imposer comme le champion de la lutte contre le réchauffement climatique, et cela après le retrait américain de l'accord de Paris. Le chef de l'État doit d'ailleurs recevoir ce soir à New York le titre de champion de la Terre, décerné par le programme des Nations Unies pour l'environnement. Invité de ce journal en ligne depuis New York, François de Rugy, ministre de la Transition écologique. Bonsoir.
Bonsoir.
François de Rugy, est-ce que la mobilisation lancée par la France l'an dernier a servi à quelque chose ?
La mobilisation pour le climat, contre les émissions de gaz à effet de serre, elle continue. Et c'est important que, ici à New York, en parallèle de l'Assemblée générale des Nations Unies, on puisse montrer que des responsables politiques de tous les pays, et notamment des États-Unis, se mobilise en faveur du climat. J'ai rencontré hier Jerry Brown, le gouverneur de Californie, qui est très mobilisé et qui souhaite que son État, la Californie, applique l'accord de Paris sur le climat. Et je crois qu'on peut dire, comme l'a fait le président de la République française à la tribune de l'ONU, que ceux qui avaient pensé pouvoir décomposer l'accord de Paris sur le climat à la suite de la sortie des États-Unis annoncée par Donald Trump, eh bien, se sont trompés. Heureusement, l'accord de Paris sur le climat, il tient bon parce que les uns et les autres sont toujours mobilisés.
Et justement, est-ce que la France espère toujours ramener Donald Trump et les États-Unis dans l'accord de Paris ?
Bien sûr que l'on souhaite que les États-Unis reviennent dans l'accord de Paris. Donald Trump ne le fera pas d'ici la fin de son mandat. Il faut être clair. Son discours à la tribune des Nations Unies, Donald Trump, il n'a même pas parlé du climat. En revanche, il a appelé à des prix de l'énergie très bon marché, et donc à une forme de gaspillage de l'énergie en continuant les ventes, notamment de pétrole et de charbon. Donc il n'y a pas grand-chose à attendre de Donald Trump sur la question du climat. En revanche, les autres grands pays sont mobilisés, notamment la Chine, ce qui n'était pas évident il y a encore quelques années. L'Inde également, et les pays en voie de développement aussi. Et ça, c'est l'enjeu de la prochaine conférence, la prochaine COP 24 sur le climat qui aura lieu en Pologne à la fin de cette année.
François de Rugy, l'an dernier, de nombreuses entreprises ou institutions s'étaient engagées à renoncer aux énergies fossiles. Un an après, est-ce que ces promesses ont été tenues ?
Oui, le Michael Bloomberg co-organise le One Planet Summit. Je l'ai rencontré moi-même hier soir. J'ai discuté avec des chefs d'entreprise aussi variés que des gens intervenant dans la finance, dans l'automobile. Et aujourd'hui, ils sont toujours engagés. Et des groupes américains s'engage à appliquer l'accord de Paris, alors que rien ne les y contraint, puisque leur pays en est sorti. Je vois aussi un groupe comme BNP Paribas, grande banque internationale, française d'origine, mais présente partout dans le monde, faire le choix de supprimer tout financement de projets de type centrale à charbon, ou en tout cas tout ce qui, dans le domaine de l'énergie, contribuerait à augmenter les émissions de gaz à effet de serre.
La Banque mondiale également avait promis d'arrêter de financer l'exploration et l'exploitation de pétrole et de gaz après 2019. Est-ce que cette promesse de la Banque mondiale tient toujours ?
C'est évident qu'à l'échelle mondiale, il y a encore une forme de bras de fer entre ceux qui veulent continuer comme avant, qui veulent poursuivre les projets d'exploitation pétrolière, gazière, de charbon, qui veulent lancer de nouvelles centrales à charbon, qui avaient des projets et qui veulent continuer à les faire dans ce domaine. Et ceux qui sont conscients qu'on ne peut plus se contenter de discours sur le climat, mais qu'on doit passer aux actes, et que dans les actions concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique, bah, il y a évidemment des gros enjeux autour de l'énergie. C'est bien sûr le charbon, qui est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, notamment lorsqu'on l'utilise pour produire de l'électricité, mais aussi le pétrole, dans une moindre mesure le gaz, et puis bien sûr les transports, avec les émissions de gaz à effet de serre, des voitures, des camions, ou encore l'enjeu aussi plus complexe de l'agriculture.
François de Rugy, la France n'est pas forcément exemplaire en la matière, puisque selon l'Observatoire Climat-Énergie, les émissions françaises de gaz à effet de serre ont dépassé l'an dernier de 6,7% le volume maximum autorisé. Comment vous expliquez ce dérapage ?
Alors, la France n'est pas exemplaire parce que il y a bien sûr dans notre pays, comme dans d'autres, une relance de l'activité économique. Pour autant, la tendance générale en France, elle est bien à la baisse des gaz à effet de serre. Nous pensons qu'en 2018, d'ailleurs, ce sera de nouveau orienté à la baisse. Ce qui est sûr, c'est que la France est plutôt bien positionnée pour ce qui concerne la production d'électricité. Nous allons d'ailleurs fermer les 4 centrales à charbon qui resteraient encore en fonctionnement d'ici 2022, donc c'est un engagement très fort. Mais il nous faut maintenant aller beaucoup plus loin dans le domaine des transports, notamment dans le domaine des transports par la route. Et nous aurons d'ailleurs une loi sur les transports et la mobilité qui va être présentée au mois d'octobre. Et puis ensuite aussi sur le secteur de l'agriculture, qui encore une fois est plus complexe, parce que la France est une grande puissance agricole, notamment pour l'élevage. Et c'est plus difficile de faire évoluer les choses dans ce domaine.
François de Rugy, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Jeremy Corbyn est prêt à gouverner le Royaume-Uni. Le chef du parti travailliste s'est montré confiant aujourd'hui à Liverpool, lors du discours de clôture du congrès de sa formation. Jeremy Corbyn, très virulent contre la première ministre Theresa May, accusé de vandalisme social et d'incompétence sur le Brexit. Antoine Gignot, le Brexit est pourtant un sujet qui ne fait pas consensus chez les travaillistes.
C'est le sujet qui a dominé le congrès des travaillistes. Et pourtant, Jeremy Corbyn, dans son discours fleuve, plus d'une heure au total, a soigneusement évité d'en parler. Car si l'écrasante majorité des militants se dit favorable à un second référendum, les électeurs traditionnels du parti, eux, sont beaucoup plus partagés. Ils sont 35% à avoir voté pour le Brexit en 2016, essentiellement des ouvriers, les classes populaires. Et Jeremy Corbyn ne peut pas se permettre de les laisser de côté. La priorité, dit-il, c'est de faire tomber la première ministre Theresa May. Les parlementaires de gauche voteront, quoi qu'il arrive, contre l'accord commercial conclu par le gouvernement avec Bruxelles. Et s'il n'y a aucune autre alternative, ils réclameront des législatives anticipées. Quand on n'arrive pas à négocier, explique Corbyn, on doit laisser sa place à ceux qui savent le faire. Mais le numéro 1 du parti pointe surtout le bilan de 8 années d'austérité destructrice, dit-il, et de vandalisme social. Il tente également d'apaiser les tensions après les accusations d'antisémitisme. Me battrai pour l'éradiquer jusqu'à mon dernier souffle. Un discours donc centré autour de la nécessité de se rassembler, de s'unir contre les conservateurs. Pas sûr pourtant que cette unité de façade dure longtemps. À l'extérieur de la salle, des militants proches de Corbyn et à gauche de la gauche brandissent des pancartes avec cette inscription « Les centristes, les partisans de Tony Blair, dehors, vous n'avez qu'à quitter le parti ».
Antoine Gignot, correspondant de Radio France à Londres. Dans l'actualité politique française, il y a le malaise grandissant des collectivités locales. Les associations qui regroupent les régions, les départements et les maires s'apprêtent à lancer l'appel de Marseille, un texte qui dénonce les coupes budgétaires que leur impose le gouvernement. Alors pour comprendre ce malaise des collectivités locales, je vous propose d'écouter Olivier Richefouille, il est président UDI du département de la Mayenne.
Je vous donne un exemple. Le président des départements de France, Dominique Bussereau, a été invité la veille de la présentation du plan pauvreté qui concerne les départements. Soit c'est des oublis, soit c'est de l'ignorance du rôle des élus par une technocratie relativement bien présente au sein du gouvernement, soit c'est d'une volonté délibérée de faire sans les territoires. Il faut qu'ils comprennent que tout pays qui a réussi à se réformer s'est réformé au plus près des territoires. On ne réforme pas de Paris.
Demain, Édouard Philippe sera là, il va ouvrir le congrès des régions. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire ?
Ce que je voudrais dire, c'est qu'il se souvienne qu'il a été élu local et qu'il pense à passer ce message à tous ses collègues des différents ministères et surtout à tous les techniciens qui les encadrent.
Qu'est-ce qui se passera si le blocage continue ?
Eh bien, la réforme ne se fera pas, car on ne fera pas les réformes contre les élus et contre les territoires. Et donc, ça n'a pas de sens, car nous souhaitons tous que la France se réforme.
C'est pas un front anti-gouvernemental ?
Pas du tout, et d'ailleurs, toutes les sensibilités se retrouvent dans ce mouvement, donc ce n'est pas surtout un front politique, absolument pas.
Olivier Richefouille, président du conseil départemental de la Mayenne, il répondait à Élodie Fauré. Le temps demain sera ensoleillé sur tout le Paris, sur tout le pays, pardon, en raison d'un puissant anticyclone sur la France. Quelques nuages arriveront sur les côtes de la Manche en soirée. Température minimale toujours fraîche de 3 à 15 degrés du nord au sud. Les maximales progressent de 20 à 32 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau.